France Inter, le 18-20.
Après la réforme du travail et ses ordonnances, c'est donc le deuxième grand chantier social d'Emmanuel Macron et le chemin n'est pas semé de roses. Réformer l'assurance chômage, ça veut dire à la fois ouvrir le droit au chômage à plus de monde, mais ça coûte. On parle des indépendants, on parle des démissionnaires, plus de démissionnaires. Ça veut dire aussi cette affaire de bonus-malus pour inciter les entreprises à embaucher en CDI. Et là-dessus, on est peut-être au bord de la reculade, comme l'avait d'ailleurs été le gouvernement précédent. L'autre volet qui crie attention danger, c'est celui des sanctions en cas de refus répété de prendre un emploi pour les chômeurs. On en parle, mais ça reste entièrement à définir. Alors ce soir, vous êtes indépendant, vous vous demandez si vous rentrez dans les nouveaux critères, quelle cotisation sera la vôtre. Vous voulez démissionner mais pas les mains vides, vous êtes chômeur, les propositions loin de chez vous ou pas, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est à vous de jouer. Le téléphone sonne là pour vous ce soir.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Et c'est Christophe le premier. Christophe, bonsoir, soyez le bienvenu au téléphone sonne, on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Moi, ce que je voulais dire, c'est que parmi les questions qui se posent, moi, je trouve que la mesure qui est annoncée, elle est premièrement inutile, parce que quand on est indépendant, souvent, c'est qu'on l'a choisi. Je ne dépends pas d'un patron et de ses décisions de gestion. Ça me paraît en plus irréaliste parce que concrètement, si on m'indemnise est-ce qu'il faudra que j'accepte n'importe quel contrat au bout de deux propositions, comme pour un salarié? Troisièmement, ça me paraît totalement paradoxal parce que en partie, je dépends de la commande publique et la politique Macron, elle est en train d'assécher la commande publique. Donc, c'est plutôt en train de me mettre au chômage. Et puis, en dernier lieu, ça me paraît illusoire et démagogique. Parce que sous prétexte d'universalité, on est encore en train d'essayer de faire baisser le niveau d'indemnisation pour tous, de sortir d'un système assurantiel, et au final, ça sera que sur les bases d'assurance privée qui est plus aisée pour couvrir ce risque-là.
D'accord, Christophe. Voilà. Attendez, juste pour comprendre, donc vous êtes travailleur indépendant, mais vous, au cas où, et si vous avez un problème avec votre travail, vous préférez ne pas être indemnisé au final?
Si ça m'oblige à cotiser alors que j'ai pas choisi, oui, ça m'embête parce que moi, le fait d'être indépendant, c'est pour que j'aille chercher moi-même mon travail. Quand on est salarié, on a un lien de subordination, on dépend de quelqu'un qui va le chercher pour nous ce travail. Bien sûr, si on l'assure bien, on a du travail. Mais c'est ma décision qui, en partie, conditionne mon carnet de commandes. Après, il peut y avoir des facteurs extérieurs, mais je suis pas un agriculteur qui dépend de la météo. Mmh. Donc, je vois pas pourquoi je serais obligé de le faire. Je préférerais qu'on reste sur un niveau assurantiel pour des gens qui sont dépendants de facteurs extérieurs, totalement extérieurs dans leur activité.
D'accord, on a compris. Merci beaucoup pour votre question, Christophe, qui entame bien le débat, pour vous répondre ce soir. Véronique Descaques, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT. François Asselin est là aussi, bonsoir.
Bonsoir.
Président de la CPME et Bruno Coquet, bonsoir. Économiste, spécialiste de l'assurance chômage. Vous avez notamment écrit, chez Odile Jacob, un avenir pour l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Christophe, Bruno Coquet? Je commence avec vous. J'ai presque envie de dire que ça part d'un bon sentiment. On voit bien où on veut aller quand on dit qu'on veut indemniser les indépendants, mais vraisemblablement, ça ne convient pas à tous les indépendants, c'est le moins qu'on puisse dire.
La réponse, elle est pas tellement sur le statut. L'idée est de regarder que, d'un côté, aujourd'hui, on a un marché du travail avec des risques, et que face à ça, on a, du fait de chômage de masse persistant, etc., on a une diversification des statuts. À la fois parce que les individus le décident et parce que aussi les employeurs essayent d'échapper à différentes contraintes ou à des coûts en proposant d'autres statuts. Donc l'enjeu, ça ne se passe pas qu'en France. Hein, ça se passe dans beaucoup de pays dans le monde. Donc on a ce plafonnement du salariat. Donc il s'agit de regarder quel est ce risque, le risque étant d'être involontairement privé d'emploi, hein, c'est le but de l'assurance chômage que d'indemniser ces gens-là, et donc du coup d'être involontairement privé de revenus. Il se trouve que dans les indépendants, beaucoup répondent à ces caractéristiques-là, c'est-à-dire qu'ils sont involontairement privés de revenus, et dès lors, ils vont dépendre de la solidarité nationale, alors des revenus minimums, etc. Mais du coup, ils vont avoir aussi leur risque de chômage qui va s'accroître de ce fait, et risque d'être exclus du marché du travail. Donc leur donner les mêmes droits que tout le monde a du sens, À partir du moment où on regarde le marché du travail dans son ensemble, indépendamment du statut, et qu'on essaye juste de couvrir des risques individuels là-dedans pour maintenir les gens près de l'emploi.
En même temps, le fond de la question de Christophe, Véronique Descalques, peut-être que vous allez pouvoir nous aider, c'est couverture volontaire ou facultative, au final? C'est ça la question qu'il pose.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a indépendants et indépendants. Voilà. Il y a évidemment des commerçants, des artisans, des professions libérales qui ont fait ce choix d'être vraiment indépendants, autonomes, qui vont chercher des clients, comme nous l'a dit l'auditeur, et qui ne souhaitent pas forcément une assurance chômage. Et ils peuvent effectivement, si en revanche, s'ils sont anxieux, se faire couvrir par une assurance privée. D'ailleurs, ça existe déjà. Mm-hmm. Non, mais là, ce dont il est question pour nous et qui est très important, c'est toute cette frange de travailleurs précaires qui ne sont pas des salariés, mais qui pour autant ont un lien de dépendance économique très fort avec un donneur d'ordre. L'auditeur a parlé très justement du lien de subordination qu'a le salarié, mais le lien de subordination du salarié, il est économique, il est juridique, mais il y a aussi des indépendances qu'on appelle la zone grise du chômage, et on voit bien, il suffit de parler de ce qui se passe avec les plateformes, par exemple,
on va y
pour bien comprendre
dans
qu'il
un
y a
instant, si vous voulez.
Une nouvelle catégorie de gens qui sont un petit peu le nouveau prolétariat du 21e siècle, quoi. Ces gens qui dépendent de la commande d'une plateforme, et quand eux, ils perdent cette commande, eh bien, on peut dire qu'ils sont involontairement privés d'emploi.
Mais donc,
je pense qu'on peut découvrir ces travailleurs-là, à condition évidemment qu'il y ait une cotisation qui soit réglée, en partie par eux, mais en partie par les plateformes. Vous savez, pour les travailleurs des plateformes, on a par exemple obligé les plateformes à payer une cotisation en cas d'accident du travail. Donc pour l'assurance chômage, on doit pouvoir faire la même chose.
Elmer, est-ce que vraiment ces plateformes sont couvertes par cette réforme, par ce projet de réforme? Est-ce qu'on en est sûr que les plateformes sont couvertes?
En tout cas, nous, c'est la revendication de la CFDT dans la négociation qui va s'ouvrir et qui commence cette semaine.
François Asselin, pour la CPME, vous?
Alors pour la CPME, d'abord, je comprends ô combien Christophe, parce que je suis à mon compte depuis 24 ans et je suis ce qu'on appelle TNS, travailleur non salarié, donc je suis aussi un indépendant. Et lorsque je me suis mis il y a 24 ans à mon compte, je n'ai absolument pas pensé à l'assurance chômage, c'est-à-dire que j'ai accepté un jour de poser un acte, il est comme il est, on peut le qualifier de courageux, de me mettre à mon compte, de reprendre une activité et d'assumer toutes les responsabilités, à savoir le risque de se mettre à son compte. Et vous avez une assurance facultative qui existe, qui s'appelle la GSC, qui fait que si vous voulez vous assurer contre ce risque de manque d'activité, vous cotisez d'une façon volontaire à un régime privé qui s'appelle la GSC. D'ailleurs, peu de chefs d'entreprise malheureusement cotisent à la GSC. Si demain on voulait élargir le système assurantiel actuel à l'ensemble des statuts, quels qu'ils soient, salariés indépendants, faut quand même pas rêver.
Le nombre, c'est quoi? 3 millions, 3 millions et demi, non? Salariés indépendants, grosso modo.
Oui, c'est très important. Vous avez à peu près 1 300 000. Oui, c'est ça. Vous avez un peu plus de 3 millions d'indépendants, dont 1 300 000 auto-entrepreneurs. Donc c'est considérable. Et donc nous n'étions pas demandeurs, si vous voulez, de cette mesure. Et ensuite, on n'est pas loin de Noël, donc faut pas croire au Père Noël. C'est-à-dire que si on voulait aligner tout le monde sur le régime assurantiel, assurance chômage, se poserait un énorme problème de financement. La seule ouverture que je peux voir, c'est lorsque l'indépendant est rendu au dépôt de bilan étant liquidation judiciaire. Avoir une couverture minimum qui permet d'aller au distributeur pour se nourrir, ça, c'est une ouverture qui peut paraître intéressante. Pour le reste, nous ne sommes absolument pas demandeurs. Et là encore, comment financerait-on ce nouveau régime pour l'ensemble des statuts? C'est une vraie question. Par rapport aux indépendants qui travaillent pour les plateformes, c'est vrai qu'on voit émerger depuis quelques années une nouvelle catégorie, on va dire, hybride d'indépendants, où il y a une dépendance très forte par rapport à la plateforme. Il me semble que la première des questions par rapport à ces populations, c'est plus une question de couverture, on va dire, prévention, santé, qu'avant tout une couverture chômage.
Il y a un package. Je pense qu'il faut effectivement réfléchir au-delà de l'assurance chômage. Il faut penser à la complémentaire santé. Il faut penser à la protection de l'outil de travail aussi. Souvent, ces gens, ils utilisent leurs propres biens comme outil de travail, leur vélo, leur voiture, etc. Mais l'assurance chômage, c'est pas inutile d'imaginer que dans un package de garanties qui les couvrirait, on peut aussi, parce qu'ils sont quand même très dépendants d'une commande pour laquelle ils n'ont aucun moyen d'intervenir. Ils sont parfois même dans un lien de dépendance encore plus grand que les salariés, parce qu'un employeur, il est tenu de donner du travail à son salarié.
Mais vous savez, Madame Descalques, tous les indépendants sont très dépendants de leurs clients.
Oui, mais quand c'est une plateforme, c'est quand même différent, parce que la plateforme impose, y compris ses conditions de prix. Bruno, c'est vous qui faites vos prix.
Bruno Coquet, un mot, puis on retourne au standard.
Allez-y. D'abord, il faut voir qu'il n'y a pas que les indépendants qui s'excluent de l'assurance chômage. Tous les employeurs publics au sens large, hein, y compris entreprises publiques, sont exclus de l'assurance chômage. Donc l'universalité passe déjà par là, hein, ça fait des ressources. Et puis par ailleurs, pour faire un parallèle avec ce que dit M. Asselin, il y a plein de salariés qui ne souhaitent pas, qui ne pensent pas à l'assurance chômage lorsqu'ils rentrent sur le marché du travail et qui ne vont pas travailler dans cet esprit-là. Pour autant, en économie, on sait que
personne
l'assurance
ne va
chômage...
travailler dans, en imaginant qu'on va être chômeur à un moment.
Et donc,
espérons-le.
Le point, c'est bien un point ex post. 100% de la littérature économique est d'accord sur le fait qu'une économie est toujours mieux avec une assurance chômage que sans. Y compris s'il y a des gens qui se disent « j'en ai pas besoin ». Le problème, il faut que, c'est que tout le monde soit dedans. Voilà ce que dit la théorie.
Et ben alors, pour que tout le monde soit dedans, la question de Magdalena arrive à point. Bonsoir Magdalena, soyez la bienvenue. On vous écoute.
Bonsoir.
Allez-y.
Oui, je pense, bon, la remise en cause du chômage, tous les fonctionnaires d'État et des collectivités locales ne cotisent absolument pas aux assurances chômage. C'est ce qui vient d'ailleurs d'être dit. Moi, je pense que par solidarité et puis par un peu de justice sociale, je penserais qu'il serait quand même normal que l'on commence à réfléchir à faire payer, cotiser, en quelque sorte, les fonctionnaires, même s'ils cotisent pour un droit auquel ils n'ont pas droit, puisqu'en principe, ils ne seront jamais chômeurs, il est quand même un peu normal que les fonctionnaires participent au bien-être.
À l'effort, vous dites.
À l'effort, voilà, à l'effort, pour que les gens qui sont au chômage s'en sortent un peu mieux. Mmh. Ça me paraît tout à fait solidaire et absolument normal. D'autant plus que les fonctionnaires... une loi qui est sortie il y a quelques années déjà, s'ils démissionnent, touchent un pactole, qui est de 3 ans de leur salaire annuel. Alors, bon, ce pactole est quand même payé par les impôts, par les taxes des chômeurs.
Il y a eu des regards dubitatifs autour de la table lorsque vous avez parlé de pactole, mais on va y venir, Magdalena, sur la première question, la première partie de la question de Magdalena, Véronique Descac, vous qui représentez la CFDT. Effectivement, est-ce que l'égalité ne passe pas par un morceau de cotisation au moins de la part des fonctionnaires? Alors, comme le dit Magdalena, théoriquement, on n'est pas au chômage quand on est fonctionnaire.
Ouais. Alors d'abord, mais les fonctionnaires, jusqu'alors, ils payaient une contribution de solidarité pour l'assurance chômage. Ils payaient 1% de contribution de solidarité pour l'assurance chômage. Et puis maintenant, normalement, si la réforme proposée par Emmanuel Macron va jusqu'à son terme, et à partir du 1er janvier, en tout état de cause, il paye au travers de la CSG, puisqu'on a transféré des cotisations sur la CSG pour financer l'assurance chômage, en tout cas au moins provisoirement pour l'année prochaine. En attendant que la négociation...
Il y a un système compliqué, voilà. Plafond plancher, qui ressemble un peu à ce qu'on disait sur les retraites
précédemment. Ce qui est important quand même de dire, pour nous, je pense pouvoir parler au nom de toutes les organisations syndicales, mais particulièrement pour la CFDT, c'est qu'il faut que, de notre point de vue, l'indemnisation du chômage, ça demeure un revenu de remplacement. C'est-à-dire que vous avez versé une cotisation en fonction de votre revenu et vous percevez une indemnité qui est calculée en fonction de votre revenu. Pourquoi ? Parce que c'est en gardant un certain niveau de vie que vous avez toutes les chances de retourner le plus vite à l'emploi, que vous pouvez continuer à vous former, à vous informer, à vous déplacer pour chercher du travail, etc. Donc il ne faut absolument pas transformer l'assurance chômage en un minima social. Il faut vraiment que ça demeure un revenu de remplacement. Et qui dit revenu de remplacement dit cotisation. Alors, il y a une catégorie de fonctionnaires qui pourraient très bien entrer dans le système. C'est par exemple tous les contractuels qui, eux, pourraient très bien... Mais l'État fait souvent le choix de s'auto-assurer, ce faisant, c'est-à-dire ils ne payent pas de cotisations, ils ne demandent pas de verser des cotisations. Quand les gens perdent leur emploi, ils leur donnent des droits. Sauf que les gens, du coup, ces contractuels de la fonction publique sont très très mal informés sur leurs droits en matière d'indemnisation quand ils sont au chômage. Donc nous, on aimerait bien faire entrer au moins cela dans le droit commun des salariés.
François Asselin, pour la cotisation des fonctionnaires, qu'est-ce qu'on dit de votre côté ?
Bah, écoutez, qu'il y ait une cotisation de solidarité, c'est pas mal. Hein. C'était une de nos idées aussi, hein, pour, entre guillemets, participer à la solidarité nationale, que ceux qui ont la chance d'avoir une garantie de l'emploi puissent cotiser un petit pourcentage pour l'ensemble des autres statuts. Ça paraît, à mon avis, une piste intéressante. Ça existe déjà. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que la cotisation aujourd'hui de l'assurance chômage en France est très élevée. Hein. C'est 6,45%. 2,40% pour le salarié, le solde pour l'employeur. On part sur un niveau de cotisation très élevé. Ce qui fait que globalement, quand on se compare par rapport aux autres pays européens, on a plutôt un taux de couverture qui est plutôt relativement Acceptable, correct, confortable, ouais. Très correct.
Hein, est-ce qu'on peut, j'allais dire, tordre le cou à quelques idées reçues? Je reviens sur ce que disait Magdalena tout à l'heure sur le pactole des fonctionnaires lorsqu'ils s'en vont. Ces fameux 3 ans de pactole, Véronique Desca. Est-ce que ça existe ou pas du tout?
Ça n'existe pas. Quand un fonctionnaire quitte la fonction publique, il ne touche pas de pactole. Ce à quoi on peut tordre le cou, c'est sur la générosité de l'assurance chômage aussi. Vous savez que l'indemnisation médiane, c'est-à-dire 50% des gens qui sont au chômage, touchent moins de 940 euros par mois. Ça donne quand même une idée sur le fait que c'est pas un système dont on a la possibilité de beaucoup abuser. La durée aussi. On dit en France on peut toucher jusqu'à 2 ans voire 3 ans pour les seniors d'indemnisation. Sauf que la durée moyenne c'est 10 mois d'indemnisation. Donc le système français n'est pas particulièrement généreux.
Bruno Coquet, est-ce qu'on revient d'ailleurs sur cette indemnisation, sur la longueur de l'indemnisation, sur qui est indemnisé? Est-ce qu'on remet ça sur la table dans cette réforme ou pas du tout?
En théorie, non. En pratique, toujours. Donc, le point, c'est toujours qu'il y a un argument récurrent qui consiste à dire que l'assurance chômage en France est généreuse. Alors d'abord, elle est chère. Comme le disait François Asselin, c'est 6,45% du salaire. Ça fait un mois de salaire net par an. C'est l'assurance la plus chère du monde. Premier point. Deuxième point, le chômeur français, quand on le compare à un chômeur allemand, en fait, il perçoit à peu près la même chose en moyenne. Simplement, bon, je mets de côté le fait que le chômage est très bas en Allemagne, donc il retrouve facilement un emploi. Mais si on regarde le revenu de remplacement, en Allemagne, en gros, c'est 50% d'allocation chômage, 50% d'autres choses, c'est-à-dire des transferts sociaux qui viennent de public. En France, c'est 85% d'assurance chômage et 15% du reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'essentiel des revenus d'un chômeur vient de l'assurance chômage à laquelle la personne a cotisé. Est-ce que ça veut dire que c'est plus généreux qu'en Allemagne? Non. Au total, ce qui détermine le retour à l'emploi, c'est le revenu du chômeur. Il est le même dans les deux pays. Simplement, sa composition n'est pas la même. En France, c'est essentiellement de l'assurance. Donc revoir les droits au motif qu'il serait plus généreux qu'ailleurs. Certes, les droits assurance sont plus généreux qu'ailleurs, mais uniquement parce que le reste n'est pas généreux.
En même temps, on a envie de dire tant mieux, si les droits sont généreux, non?
Oui, au final, tant mieux. Vous savez, le meilleur système, c'est celui qui arrive à pallier un accident de parcours professionnel, on est tous d'accord, mais qui en même temps raccroche le plus rapidement possible eh bien celui qui en bénéficie au marché de l'emploi. C'est ça le meilleur système. Et effectivement, c'est pas toujours évident de trouver le juste équilibre, on est bien d'accord là-dessus. Faut quand même pas oublier que on a quand même plus de dégressivité sur l'assurance chômage.
On n'a plus de dégressivité.
Il n'y a pas de dégressivité.
Il n'y a pas de dégressivité sur l'assurance chômage. Et là aussi, vous dites dommage, hein, il faut qu'il y ait une dégressivité sur l'assurance chômage.
C'est un débat. C'est-à-dire que nous, on a tout le temps considéré que s'il n'y avait pas moyen de raccrocher, d'inciter la personne au chômage, de raccrocher au marché de l'emploi, quand on sait que c'est les premiers mois qui sont les plus déterminants pour se retrouver un emploi le plus rapidement possible, eh bien, effectivement, il faut éviter d'enfermer toute personne eh bien, dans un système qui le sort du marché de l'emploi.
Mais quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on s'endort sur ses cotisations. C'est aussi ça que j'entends en creux. C'est, puisqu'ils ont du temps devant eux, ils ne cherchent pas d'emploi. Assez basique comme argument.
Ce qui n'est pas vrai.
Oui et non.
Ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, la dégressivité, elle a été essayée dans les années 90 en France. Elle n'a pas marché. On est revenu en arrière. Ce qui compte, c'est un peu les trois piliers pour le demandeur d'emploi. Il a besoin d'une indemnisation qui lui permette de rester actif dans sa recherche d'emploi, il a besoin d'accompagnement dans sa recherche d'emploi et de formation. Donc il faut faire les trois. C'est ça vraiment qui est important. Et c'est ça qui fera que, effectivement, le plus vite possible, il va se reprojeter dans un projet professionnel, il va retourner vers l'emploi. Je pense que ça, c'est beaucoup plus efficace qu'une hypothétique dégressivité au bout de X mois.
Bruno Coquet, allez-y, pardon.
Oui, la dégressivité, la théorie économique est claire. Les travaux empiriques montrent que ce n'est pas une disposition optimale. Donc ça, c'est clair. Il ne faut pas faire de la dégressivité.
Après, parce qu'on a une dégressivité qu'on trouve de l'emploi plus vite, c'est faux.
Et après, est-ce que les chômeurs ne reprennent pas d'emploi? Non. On a 40 millions de contrats de travail signés par an. Ça veut dire plus de 3 millions par mois. Qui reprend ces emplois? Ce sont des chômeurs. Et pourtant, ces emplois, c'est des emplois courts, mal payés souvent, etc. Et donc, du coup, ces chômeurs qui reprennent des emplois, une grande partie, à peu près la moitié, un peu plus, sont indemnisés. Et donc, du coup, le problème du retour à l'emploi n'est pas vraiment le problème de l'assurance chômage française. Voilà.
La question de Christiane, maintenant. Bonsoir, Christiane. Soyez la bienvenue. On vous écoute.
Oui, bonsoir à toutes, à tous. Et puis, merci pour vos émissions. Je vous écoute souvent le soir. Donc là, j'ai la chance. Alors, je voulais simplement vous demander si cela existait toujours, le fait que je vais vous rapporter. Au cours de ma carrière, j'ai démissionné et j'ai eu droit, néanmoins, j'ai eu droit au chômage. À la vue de mon dossier, les AFEDIC et la NPE, puisque c'était la NPE à l'époque, ont décidé de m'indemniser et donc j'ai eu droit au chômage. Mmh. Voilà.
Qu'est-ce que vous faisiez, pardon Christiane, vous faisiez quoi comme travail?
Alors, à l'époque, j'étais assistante d'un... c'était les premiers hypermarchés.
D'accord.
Et j'étais l'assistante d'un acheteur en hypermarché, voilà.
D'accord. Et la suite de votre question, pardon Christiane, je vous ai interrompu.
Alors, je voulais savoir si le fait de démissionner sous certaines conditions pour avoir droit au chômage, cela existait toujours.
Merci beaucoup pour votre question, Christiane. Les démissionnaires, c'est l'un des points, effectivement. Alors, il faut rappeler qu'il y a déjà des démissionnaires qui touchent le chômage. Il y a une quinzaine de points, c'est ça?
Il y a à peu près 14 cas.
Véronique Descac, 15 ou 14
cas. Il y a à peu près 14 cas, par exemple, quand vous démissionnez pour suivre votre conjoint qui est muté. Vous pouvez aussi démissionner au contraire pour fuir un conjoint qui vous bat, etc. Donc, il y a un certain nombre de situations qui existent déjà. Et puis, il y a des situations qui sont traitées au cas par cas, c'est-à-dire que quand vous avez quitté un emploi, que vous en avez repris un autre et puis que vous n'allez pas jusqu'au bout de votre période d'essai, vous pouvez sur dossier demander, c'était peut-être le cas de cette dame, vous démissionnez pendant votre période d'essai, vous pouvez demander à Pôle emploi de reprendre votre indemnisation. Ce qui est proposé là par le gouvernement, c'est un peu différent, c'est d'indemniser les démissionnaires quasiment sans condition, et surtout de les indemniser sans délai de carence. C'est-à-dire tout de suite, dès qu'on démissionne, on a le droit à une indemnisation.
Mais tout le monde, 100% des démissionnaires,
alors c'est bien ça le sujet. On doit trouver les critères qui permettent d'éviter
l'effet d'aubaine.
Il y a deux problèmes pour la CFDT. Il y a celui de l'effet d'aubaine, c'est-à-dire les plus employables qui vont démissionner en se disant, bah tiens, je sais que je suis très employable, donc dans 3-4 mois, je vais retrouver un boulot. En attendant, pendant 3-4 mois, je vais rester un peu au chômage, donc il faut trouver un critère qui évite ça. Et puis il y a l'inverse, c'est-à-dire la personne qui a un travail difficile, des conditions de travail désagréables, peut-être une relation conflictuelle avec son employeur,
qui se dit, s'en va, ouais.
Je démissionne, après tout, je serai indemnisé, puis j'aurai bien le temps de trouver du boulot, enfin j'aurai bien le temps, où j'y arriverai bien. Et puis qui finalement n'a pas des qualifications très recherchées sur le marché du travail, qui va un peu se trouver dans une impasse.
Et il n'y a pas le risque, pardonnez-moi de vous interrompre, de pousser la démission aussi quand on est un employeur, ça, puisque derrière il y aura indemnisation.
Dans certains secteurs d'activité, on nous le dit, dans notre fédération des services, on nous dit qu'il y a certains secteurs d'activité où les conditions de travail sont tellement dégradées, les relations avec les employeurs tellement dégradées, qu'on peut effectivement voir des cas d'employeurs qui vont pousser à la démission en disant « t'es indemnisé », mais enfin le type, s'il a droit à 3 mois d'indemnisation, va se retrouver dans une impasse et dans le risque de pauvreté, voire de chômage de longue durée. Donc il faut trouver les bons critères pour éviter ces deux situations qui seraient ou nuisibles aux demandeurs d'emploi, aux salariés, ou nuisibles pour le régime.
Il y a aussi, Bruno Coquet, l'idée, vous allez m'arrêter si je me trompe, que quand on a un projet dit valide pour un nouveau job, alors effectivement on est ouvert à indemnisation en cas de démission. Mais c'est quoi un projet valide?
Ça, c'est à l'entrepreneur ou à la personne qui se forme de l'apprécier. C'est-à-dire que l'assurance chômage n'est pas là pour prendre des risques à la place de la personne.
Mais qui apprécie ça? Si moi, je décide de démissionner, qui apprécie?
C'est la personne qui va démissionner de son CDI, faut toujours le rappeler, de son CDI, pour se lancer soit dans une formation, soit dans la création d'une entreprise. L'assurance chômage peut lui dire, je vais vous aider en vous fournissant un revenu, à condition que j'ai la preuve que vous mettiez bien en œuvre ce projet. Après, le risque que vous prenez en ayant quitté votre CDI, c'est pas à l'assurance chômage de l'assumer.
Mais est-ce que c'est pas extrêmement difficile d'évaluer la validité d'un projet de ce type-là? Ça paraît extrêmement compliqué.
C'est pour ça qu'il faut partir sur des faits objectifs et ce que vous dites peut être effectivement objectif, à savoir si on quitte son emploi pour soit reprendre une activité, une entreprise, ou soit créer sa propre entreprise, c'est un fait objectif qu'on peut entre guillemets prouver à Pôle emploi parce que bien voilà, on a un dossier Acre en route par exemple. Si par exemple on veut une reconversion et qu'on veut faire une formation de longue durée, on a en fait en face le fait objectif que je suis inscrit dans une formation pour changer de métier. Ça pourrait être effectivement des faits objectifs qui pourraient déclencher une prise en charge par l'assurance chômage. Se poseront néanmoins le critère de durée de cotisation, ça c'est sûr, au bout de combien d'années de travail un démissionnaire pourrait bénéficier du système, et puis le niveau d'indemnisation. Tout simplement, c'est comment financer tout cela.
Christophe, vous allez être le représentant de beaucoup de questions de ce genre-là, beaucoup de questions comme la vôtre. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Bonsoir. merci de prendre ma question. Écoutez, je suis intermittent du spectacle, musicien. J'aurais voulu savoir si on peut me dire si cette grande réforme de l'assurance chômage va impacter le statut d'intermittent, sachant qu'il y a quand même dans les cartons en ce qui concerne cette réforme, la disparition un petit peu de l'UNEDIC et d'une commission paritaire dans la décision des indemnisations. Donc, qu'en sera-t-il de ce statut qui déjà est souvent remis en cause et décrié? Est-ce que ce ne sera pas l'occasion de faire une réforme un petit peu en profondeur de ce statut et voir sa disparition?
Voilà, ouais. Merci Christophe, je le disais, vous êtes nombreux à poser cette même question, comme ça on va pouvoir répondre en une seule fois. Est-ce que le régime des intermittents est touché par cette réforme? Oui ou non, très rapidement, Véronique Descaques?
Non, à ce stade, il n'est pas question d'y toucher. Maintenant, ceci dit, comme l'a dit Bruno Coquet, à partir du moment où on commence à regarder les droits et on prend le risque de détricoter ce qui existe déjà. Donc à ce stade, le sujet intermittent n'est pas du tout dans les débats. Le mot n'a même pas été prononcé lors de la réunion multilatérale de la semaine dernière.
Voilà. Le sujet des intermittents a échappé aux partenaires sociaux déjà depuis pas mal d'années, hein, puisque c'est l'État lui-même.
C'est pas faute d'avoir essayé, si je puis me permettre.
Ce sont quand même les partenaires sociaux qui payent. C'est l'État qui impose aux partenaires sociaux de continuer à payer.
C'est l'UNEDIC qui paye la politique culturelle.
Voilà cette question de Robert sur France Inter. .fr, financement de l'assurance chômage. Pourquoi ne pas passer par un financement public, CSG ou toute autre forme d'impôt? Tout le monde cotiserait, y compris les fonctionnaires, puisque c'est d'abord le privé qui est solidaire. Qui veut répondre à cette question? Bruno Coquet.
Les fonctionnaires, c'est réglé.
Qui lève le doigt?
Véronique Descaques l'a dit tout à l'heure, avec la CSG, on a tous les salariés, aujourd'hui, et y compris les indépendants aussi, payent pareil.
Et les retraités.
Donc, Et les retraités. Donc, du côté des individus, c'est bon. Le problème, aujourd'hui, il est du côté des employeurs. Donc, un indépendant, c'est à la fois un salarié et un employeur. Donc, on a parlé de cette question. Les employeurs publics, aujourd'hui, sont les seuls extraits de l'assurance chômage. L'enjeu est colossal. Aujourd'hui, la cotisation des employeurs, c'est 4% de la masse salariale. Si on mettait les employeurs publics dans l'assiette, la cotisation prélevée sur tout le monde, elle serait de 2,5%. Donc du coup, on voit bien, alors certes ça rajouterait une dépense parce qu'ils sont en partie en auto-assurance, mais il faut avoir en conscience que tous les employeurs publics, à une exception près, peuvent sortir de l'auto-assurance quand ils le veulent, et ils le font, lorsqu'ils vont avoir un déficit, c'est-à-dire que ça leur coûte plus cher de payer des cotisations, d'indemniser les chômeurs qui vont mettre au chômage, plutôt que de payer des cotisations. Et donc du coup, aujourd'hui, tous les employeurs publics qui adhèrent à l'UNEDIC apportent un déficit, et tous ceux qui n'adhèrent pas, c'est-à-dire la grande majorité, gardent un excédent pour eux. Donc il y a un enjeu à la fois d'équité, d'universalité de l'assurance chômage, un enjeu financier parce qu'on baisserait le coût du travail dans le secteur marchand de 4 à 2,5% la cotisation employeur, et aussi pour les finances de l'UNEDIC, puisqu'elle serait rééquilibrée en partie par le fait qu'on intégrerait des employeurs excédentaires du point de vue de l'assurance chômage.
Une seconde pour répondre Véronique Descaffes, un peu plus.
Moi, je veux redire que le risque de passer d'un financement de cotisation à un financement public par la CSG, par la TVA, par un impôt...
Système étatique au lieu de système paritaire.
C'est quand même le risque de transformer une indemnisation qui est aujourd'hui un revenu de remplacement et de le transformer en un minima social, et qui dit minima social dit indemnisation minimum, voire très faible. C'est ça, c'est les droits. Parce qu'en contrepartie de ce que l'on paye, on a des droits. Quand c'est financé par de la CSG, on n'a plus de droits à un revenu de remplacement.
Allez, Pierre nous attend au standard. Et ça fait longtemps, Pierre. Ça fait 21 minutes et 48 secondes que vous nous attendez. C'est marqué sur mon écran. On vous écoute, allez-y.
Oui, bonjour à tous.
Allez-y, bien sûr.
Moi, ce que je voulais remonter par rapport à mon expérience, c'est que sur ces 12 dernières années, j'ai eu différents types de contrats, les CNE à une époque, de l'intérim, des CDD, des CDI, du chômage lié à des licenciements économiques. Et notamment par rapport à ça, on nous dit bien, quand on arrive en CSP, démarrez très vite vos recherches de formation pour pouvoir avoir une chance d'avoir vos formations et compagnie. Et le problème, c'est que vous fassiez ou pas vos recherches immédiatement, à partir du moment où vous êtes dans une démarche de chercher un autre travail parce que le domaine dans lequel vous étiez ne vous convient plus pour une raison X ou Y, bah en fait j'ai l'impression qu'on vous met très vite sur le côté et que vous n'êtes absolument pas prioritaire. Moi, sur un an, j'ai fait 8 propositions de formation, pas une seule n'a été retenue. Et au final, j'ai fait un an de CSP pour rien, j'ai fait des recherches pour rien, j'ai perdu du temps, de l'argent entre guillemets pour rien aussi. Et j'avoue que ça m'a mis un gros coup de bambou. Au final, j'avais un an et demi d'indemnité, j'avoue que les 6 derniers mois, bah, à part creuser mon trou, parce que j'étais un peu dépité, j'ai pas fait grand chose d'autre. Je me suis mis un coup de pied aux fesses à la dernière minute parce que je pouvais pas continuer à m'enterrer comme ça. Mais je pense qu'il faut aussi aider les gens qui veulent changer de métier, parce que rester dans son domaine, c'est une chose, mais quand on s'y sent plus à sa place, c'est bien de pouvoir faire autre chose. Quant à obliger les gens à prendre des métiers quand ils ont refusé un certain nombre de postes, oui, dans l'idée, je le comprends. Maintenant, il faut que les postes correspondent à leur capacité. Je pense que ce qui serait bien, ne serait-ce que de commencer par faire des petits stages de 2 semaines à 1 mois à tout casser, dans différents domaines, pour voir si la personne trouve un domaine qui lui correspondrait. Et sans que ce soit à 100 bornes ou 150 bornes de chez elle, déjà, ce serait déjà pas mal. Si c'est pour y perdre davantage en frais route qu'en revenu du Pôle emploi, clairement, ça ne va pas motiver les gens.
Merci Pierre, on a bien compris le sens de votre question. François Asselin va vous répondre pour la CPME. François,
oui, Asselin. Pierre, je trouve que votre témoignage est pétri de bon sens. Voilà, comme beaucoup de Français, Pierre, quelqu'un qui aime bosser, qui veut bosser, qui est prêt à changer de métier et qui se retrouve dans une espèce de système où finalement, eh bien, il est un petit peu sur une voie garage ou une voie d'attente sans avoir une réelle formation efficace. Quand on sait qu'une formation, la moindre formation efficace, c'est au moins 180 heures de formation, si vraiment on veut changer de métier. Et en face de Pierre, moi, toutes les semaines, je croise des dizaines de chefs d'entreprise qui me disent « François, je n'arrive pas à trouver de salariés, de main d'œuvre qui correspondent à mes attentes, à la qualification dont j'ai besoin dans mon entreprise. » Autant vous dire que là, il y a un travail à travers la réforme de la formation professionnelle et de la formation des chômeurs qui est énorme à faire, parce qu'il y a des gens comme Pierre qui ont envie de travailler, qui sont malheureux dans une situation de chômage, et en face, vous avez des employeurs qui recherchent des gens comme Pierre. C'est absurde.
En creux, ce que j'entends, Véronique Descaques, dans ce que dit Pierre, c'est que, je vais caricaturer un peu, mais si on est plombier, qu'on a été au chômage, c'est plus ou moins facile de redevenir plombier. Mais si on est un cas un peu particulier, qu'on a envie de changer, qu'on a envie de se former, on disparaît au-dessous de la pile, en fait.
C'est un peu le cas, et c'était un peu le monde d'avant. Aujourd'hui, on a géré des transitions, une mutation profonde de notre appareil productif, dit autrement des changements de métiers, des modifications même des métiers, et notre système de formation, il va pas assez vite pour répondre aux demandes des salariés et aux demandes des demandeurs d'emploi. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si on fait en même temps la réforme de la formation professionnelle et la réforme de l'assurance chômage, parce qu'il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus réactif dans l'accès à la formation de tous d'ailleurs, salariés comme demandeurs d'emploi.
Bruno Coquet, il y a une autre chose en dans la question de Pierre qui évoquait les deux refus ou pas lorsqu'on cherche du travail. Est-ce que c'est toujours dans cette réforme, cette histoire de refus ou pas? Parce qu'on l'a vu apparaître au moment de la campagne notamment, puis on l'a vu disparaître. Alors désormais, est-ce qu'un chômeur peut être sanctionné s'il refuse plus de 2 emplois qui lui seraient proposés?
Oui, alors cette...
Alors ça existe dans les textes.
Ça existe dans les textes. C'est une disposition qui est nécessaire. Après ça, si tout est fait correctement avant, en termes de contrôle et de l'accompagnement du chômeur, il n'y a vraiment pas de raison qu'on en arrive là. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a 115 cas de sanctions de chômeurs au titre de l'offre raisonnable d'emploi.
Ce qui est rien. 115
c'est rien, mais en fait, c'est parce que...
Non, mais honnêtement.
En fait, elle est inapplicable. Par exemple, si vous dites dans votre parcours personnalisé d'accès à l'emploi, à votre inscription, que vous souhaitez un CDI et qu'on vous propose un CDD, vous refusez pas une offre raisonnable d'emploi. Donc, du coup, c'est le cas de la majorité des gens. Donc, déjà, ça ne s'applique pas. Sans compter le fait que les caractéristiques de taux de remplacement sont pas compatibles avec ce qu'offre l'assurance chômage. Enfin, c'est inapplicable. Par ailleurs, avant tout ça, il y a des dispositions de contrôle par Pôle emploi, qui doivent débusquer les quelques fraudeurs qu'il y a, puisque c'est une très faible minorité, voilà, et aider les gens qui, comme le monsieur qui pose la question, sont dans une situation où effectivement ils sont volontaires pour faire des choses et ils n'y arrivent pas. Voilà.
Oui, ils se sont découragés. Oui. Le contrôle de la recherche d'emploi à Pôle emploi a mis en évidence que... un certain nombre de personnes finissent par se décourager quand on est depuis 12 mois en train de chercher du travail ou une formation, comme l'a expliqué Pierre, on se décourage. Donc le contrôle qui est mis en œuvre à Pôle emploi vise à aider les gens à se remettre sur le chemin de la recherche d'emploi plutôt qu'à les sanctionner.
Allez, cette remarque, tiens, qu'on reçoit à l'instant sur franceinter.fr et qui veut réagir à ce que disait Magdalena, notre auditrice précédente, qui dit « Une auditrice déclare que les fonctionnaires qui démissionnent touchent un pactole. Je suis fonctionnaire professeur agrégé de lettres et je peux vous assurer que les professeurs qui démissionnent quittent l'éducation nationale sans aucune indemnité, rien de rien, comme ça, c'est dit par cet auditeur. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Vous êtes travailleur indépendant et on vous écoute, Franck, allez-y.
Voilà, bah, je suis retrouvé un petit peu dans la situation de Pierre. Donc, il y a 7 ans, j'ai perdu, j'ai terminé une mission de contractuel de la fonction publique. J'ai recherché pendant 1 an et demi de l'emploi. Je me suis fait refuser des formations. Et à la fin, j'ai souhaité m'en sortir. Donc, j'ai repris une entreprise dans ma région. Et j'ai commencé mon parcours d'indépendant. Je trouve ça excessivement difficile parce que c'est une toute petite entreprise. Donc je vis dans une situation précaire, mais j'ai préféré cette situation précaire là à la situation de non-emploi. Alors aujourd'hui, face à ça, moi je regarde l'avenir. Je ne suis pas sûr que ma toute petite entreprise puisse survivre longtemps, je veux dire dans le contexte actuel. Et moi je ne vois pas du tout d'un mauvais œil le fait qu'on ait un filet social après, vu que moi je suis parti d'une situation salariée. J'étais plutôt habitué au fait que en cas de problème, il y avait un filet social. Ma problématique aujourd'hui, c'est de me dire si demain moi je veux changer de voie, si je veux revendre mon entreprise et repartir sur un autre projet, eh bien effectivement, oui, je n'ai pas de filet social et je suis plutôt en voie d'appauvrissement qu'en voie d'enrichissement. Donc, effectivement, une mesure qui tendrait à me donner un revenu, que ce soit un revenu de chômage ou autre chose, après la cessation d'une activité ou en transition d'une autre activité, me semble pas du tout illogique, en fait, dans le contexte. De plus, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui ont été... un peu comme moi, mais ils se sont passés auto-entrepreneurs et qui sont dans une situation à peu près semblable à la mienne. Voilà.
Franck, merci beaucoup pour votre remarque. Le temps presse, pardon de vous presser aussi. François Asselin, ce qui revient à ce qu'on disait au début, il n'y a pas un indépendant, il y a des indépendants.
Des indépendants, alors c'est sûr, je comprends Franck. Et Franck, comme beaucoup d'indépendants, vit dans la précarité, hein, parce que on se nourrit avec tout simplement les commandes qu'on a des clients. Et quand il y a peu de commandes, on ne se nourrit pas, ou très mal. Et effectivement, se poserait la question, si on voulait bénéficier à même hauteur que les salariés d'une couverture chômage, il faudrait cotiser déjà 6,45%. Alors, beaucoup d'indépendants hurleraient s'il fallait qu'ils cotisent 6,45%. D'un autre côté, comme je vous le dis, il y a peut-être une ouverture. Quand on doit déposer le bilan, arrêter son activité et qu'on est en liquidation judiciaire, effectivement, avoir peut-être un minimum, qu'on pourrait appeler un minimum vital, pour pouvoir au moins ne pas complètement tomber dans le désespoir.
D'indemnité forfaitaire, c'est un peu ce qu'il y a, semble-t-il, en discussion dans la réforme. Très très vite, Laura, parce qu'il nous reste une petite minute, on écoute votre question si vous me promettez d'aller vite.
Très très vite. Je suis, parmi d'autres statuts, je suis vacataire de l'État, professeur de langue dans l'enseignement supérieur. Et en tant que vacataire de l'État, on est obligé d'avoir un employeur principal ou être indépendant ou être à la retraite ou thésard. Et c'est de l'emploi partiel, permanent, qui est renouvelé d'année en année, mais qui est saisonnier, comme les intermittents du spectacle. Sauf que nous, étant donné qu'on a soi-disant un employeur principal ou autre, on n'a pas droit au chômage.
Est-ce que ça change ça, Véronique Descaques, ou pas ?
C'est à toi.
C'est pas dans le scope de la réforme là, mais ça veut dire que c'est un certain nombre de cas qu'il faut qu'on regarde, effectivement, pour que les gens soient mieux couverts, mais en particulier tous les précaires de la fonction publique, parce qu'il y en a aussi dans la fonction publique. Donc il faut regarder si elle est dans le cadre du régime de l'auto-assurance, ou bien si justement l'État se décharge sur, comme le dit son employeur principal, auquel cas elle est assurée à ce titre-là.
Eh ben, écoutez, cette réforme, elle est en cours, on n'a pas fini d'en parler sur France Inter et ailleurs. Merci beaucoup à tous, merci pour toutes vos questions, merci à tous d'avoir répondu à ces questions dans le téléphone. Sonne.